Frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui un concours de circonstances un peu étranges. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, nous fêtons ce 25 septembre la solennité du patron de la Suisse. Et en ce jour, je crois que notre communauté doit comporter le plus faible nombre de frères suisses de toute l'année dans ses rangs. Heureusement qu'on a le frère Philippe qui sauve un petit peu les citoyens suisses en ce jour. Et puis, pour ne rien vous cacher non plus, ce n'était pas moi qui étais prévu au planning des prédications, mais bien un compatriote de Nicolas de Flux pour ce jour. Et pourtant, les événements m'ont obligé à le remplacer. C'est comme ça. Alors, n'attendez pas de moi que j'excite votre dévotion pour la mère patrie par l'intercession de son protecteur céleste. Ce serait peut-être un peu artificiel de ma part, même si j'aime beaucoup Nicolas de Flux et la Suisse. Et puis, n'attendez pas, à l'inverse, que j'assume l'attitude du Français regardant les saints patrons, dévotions et pratiques de ses voisins suisses avec un regard un petit peu distant. Ce serait à la fois trop conforme à la caricature du Français qui se pique d'une certaine condescendance pour le monde qui l'entoure, et je ne donnerai donc pas ce plaisir aux Suisses de cette assemblée qui seraient porteurs d'une telle représentation de leurs voisins. Mais je suis sûr qu'il n'y en a pas parmi vous, donc ça va. Plus sérieusement, si je vous raconte tout cela, c'est parce que je crois que derrière ces questions un peu d'identité nationale et de patron d'un pays est cachée une question assez profonde et au fond une question redoutable pour nous chrétiens catholiques. Que signifient nos identités nationales ou nos identités régionales quand il s'agit de célébrer notre foi? Que signifie le fait d'avoir un patron national qui veillerait sur notre patrie? Parce que nous l'avons entendu dans l'évangile qui a été proclamé tout à l'heure, le Christ nous appelle bien à quitter une terre en son nom. Et puis, vous le savez, le mot catholique signifie universel. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire de ces particularités auxquelles nous sommes parfois attachés dans notre foi? S'agit-il d'y renoncer pour le Christ? Alors, ce qui est bien avec une question comme celle-ci, c'est qu'on peut lui apporter une réponse claire, oui. Mais rassurez-vous, je ne vais pas me contenter de cette réponse et aller m'asseoir, c'est effectivement un peu plus compliqué que ça. Oui, suivre le Christ consiste bien à quitter physiquement ou à quitter symboliquement une terre, et tout spécialement la terre de nos origines. Derrière le mot « terre », il s'agit de comprendre ici la culture, la manière peut-être de voir le monde qui façonne pour chacun d'entre nous nos représentations. Quelle que soit la bonté de cette culture d'origine, s'il faut la quitter pour le Christ, c'est parce que le message du Christ va très au-delà de nos appartenances et de nos pratiques culturelles, même quand elles sont bonnes. En ce sens, je crois qu'il faut le rappeler, il n'y a rien de plus étranger au catholicisme que les nationalismes étriqués. Et nous savons qu'aujourd'hui, ils fleurissent et se réfèrent parfois à la foi chrétienne. Le Christ, dans l'évangile de ce jour, veut nous mettre en garde contre une menace, un danger pour notre vie chrétienne, en nous invitant à quitter notre terre. En raison de leur force en nous, ou de la manière dont elles ont pu être aussi le chemin de l'évangile, nos attaches culturelles peuvent finir, d'une manière ou d'une autre, par devenir de toutes petites idoles, des petites idoles, si on n'y prend pas garde, qui finissent par grandir. Vous savez, je crois que les pires idoles ne sont pas toujours celles grossières qui cherchent à se placer explicitement en concurrence avec le Christ sur notre chemin de foi. Les idoles parfois les plus dangereuses, ce sont celles qui nous font confondre le Dieu vivant que nous confessons, que nous prions, et puis les statues de pierre qui le représentent. Bien des choses bonnes en soi peuvent devenir des idoles si nous n'y prenons pas garde et finissent par constituer au fond un obstacle sur notre chemin vers le Christ. Je me souviens du témoignage d'un missionnaire en Afrique en ce sens, un missionnaire français. Il nous avait rapporté l'expérience de son premier Noël sur ce continent. Pas de neige, pas de bûches glacées, pas non plus ces chants traditionnels qui font surgir dans notre mémoire à tous une dévotion pour le divin enfant qui vient de naître. Rien de tout cela. Mais au milieu de ce rien, nous avait-il dit, il y avait eu l'évangile de la nativité qui avait retenti malgré tout dans cette nuit d'Afrique. Des années après, sans rien négliger de la difficulté de ce déracinement pour lui, il nous avait partagé la force d'une telle expérience spirituelle. Cette solitude culturelle, si vous me permettez l'expression, imposée par son déracinement, avait fortifié sa relation au Christ, avait fait grandir en son cœur son attrait pour le Christ seul. Cette expérience est celle aussi que vivent saint Nicolas de Flux et son épouse Dorothée. Se mettant à l'écoute d'un appel singulier, frère Nicolas a aussi quitté sa famille et dans une certaine mesure sa terre locale. Non pas parce que ces derniers étaient mauvais, mais parce qu'il sentait au fond de lui un appel pressant, une nécessité à s'attacher de façon plus radicale au Christ seul. Alors il ne s'agit pas nécessairement de suivre terme à terme cet exemple, mais il y a une question qu'on peut tous se poser, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre condition. Quelles sont les terres, quelles sont les habitudes culturelles, frères et sœurs, les coutumes et les identités, quelles sont aussi peut-être les relations humaines que nous mettrions au-dessus de notre appartenance au Christ ? Rien, absolument rien, il faut nous le redire, ni la défense d'une patrie, ni la défense ou la préservation d'un lien familial n'est au-dessus de notre relation avec le Christ. Rien, absolument rien, ne peut entrer en concurrence avec le lien qui nous unit intimement au Christ. C'est à travers lui que toutes ces réalités humaines s'éclairent, prennent leur sens le plus profond. Oui, la foi au Christ doit nous prémunir contre une identité culturelle trop fermée, contre l'identification entre notre foi et les comportements typiques d'un nationalisme étriqué. Mais alors me direz-vous, pourquoi accepter que les pays, et puis a fortiori les nations, célèbrent des saints patrons ? N'est-ce pas justement flatter ces particularismes que je suis en train de pointer du doigt comme peut-être un obstacle sur notre chemin vers le Christ ? Bien précisément pas. Parce qu'une fois mise à sa juste place, la particularité culturelle et nationale peut être une réalité à non pas simplement tolérer, mais peut constituer un chemin très humain, et c'est-à-dire un chemin très chrétien, pour nous conduire à Dieu. Si je disais tout à l'heure qu'il y a peut-être une résurgence dangereuse des nationalismes de fermeture, il y a également une tendance au nivellement des différences culturelles et aux particularités qui nous menacent aujourd'hui, et le caractère universel de notre foi, s'il ne peut admettre les nationalismes étriqués, ne peut être non plus complice de ces tendances qui visent à uniformiser les différences. Sous prétexte d'être proche de l'autre, il faudrait, d'après ces tendances-là, gommer ce qui fait nos appartenances nationales et les fondre dans des espèces de grandes entités indistinctes. Non seulement cela serait contraire à la justice qui nous demande d'honorer ceux qui nous ont précédés sur le chemin et qu'au fond nous honorons par les pratiques culturelles qui nous représentent, mais en même temps cela contribuerait à gommer une part essentielle de ce qui fait notre humanité, sa capacité de créativité et de diversification. Or, notre foi nous appelle à la diversité. Vous savez, dans les tout premiers siècles de l'Église, et je pense que ce n'est pas du luxe toujours de se le rappeler aujourd'hui, une grande question s'était posée aux premiers chrétiens. Est-ce qu'ils doivent, au fond, devenir un espèce de peuple comme tous les autres peuples de la terre, comme les Grecs, comme les Perses? Est-ce qu'ils doivent avoir une langue qui leur est propre? Est-ce qu'ils doivent habiter sur une terre particulière? Est-ce qu'ils doivent honorer Dieu en un lieu singulier? C'était un débat qui animait dans les tout premiers siècles de l'Église pas mal de chrétiens, et la réponse apportée à ces questions a été négative. Et d'ailleurs, nous le voyons toujours aujourd'hui, le christianisme et même le catholicisme est peut-être une des seules grandes religions du monde qui n'a pas de langue sacrée. Il y a plusieurs langues dans lesquelles s'exprime la foi traditionnelle et aussi la liturgie de l'Église depuis des millénaires, les deux principales étant le grec et le latin. Le christianisme, de la même manière, ne connaît pas un lieu sur terre qui devrait concentrer l'attention des chrétiens, un espèce de lieu source, une culture qu'il faudrait adopter pour se rapprocher du Christ. Oui, on peut aller en pèlerinage à Jérusalem ou à Rome, mais c'est là de l'ordre d'une dévotion que l'on peut accomplir. Il n'y a pas une volonté de véritablement être proche de Dieu plus qu'ailleurs si on va dans ces lieux singuliers. Et puis, il y a plusieurs éléments dans les cultures du monde que le chrétien peut assumer. En ce sens, vivre des particularités et ne pas idolâtrer la terre à laquelle nous nous référons procède au fond de la même logique. La diversité dans l'expression de notre foi est un rappel du fait qu'aucune expression nationale ou culturelle ne peut mettre la main sur le mystère de Dieu révélé par le Christ, mais que chacune de ces expressions tente de sa manière, à sa manière, de l'approcher. Peut-être est-ce ainsi qu'il faut comprendre le souci de Nicolas de Flux de promouvoir la paix. Non pas une paix qui s'imposerait par la force, par un modèle uniformisant que tous devraient consentir à adopter, mais une paix au service des différences, une paix fondée sur un juste respect des différences entre les hommes. Quand il appelle ses concitoyens à la paix, particulièrement dans la lettre aux Bernois, que nous avons encore lue en communauté ce matin, Nicolas de Flux a d'ailleurs une belle expression. Il invite ceux qui le lisent à s'obéir les uns les autres. Obéissez-vous les uns les autres. Construire la paix, c'est cela. C'est obéir à la différence que porte l'autre. Obéir, c'est-à-dire étymologiquement écouter. Écouter cette différence de l'autre. Et d'abord, sa différence peut être culturelle, sa différence qui peut être nous frotte et nous choque le plus, cette différence dans sa façon de s'exprimer vis-à-vis de Dieu, de rencontrer Dieu, de rencontrer le Christ. Comment est-ce qu'aujourd'hui, j'obéis à la différence de celui ou de celle avec qui je vis? Alors, frères et sœurs, sachons tous répondre à cet appel que le Christ nous lance aujourd'hui. Sachons quitter nos terres, sachons nous déplacer pour nous attacher à Dieu seul et pas à des pratiques culturelles singulières. Mais sachons en même temps voir nos particularités comme des signes de la richesse dont Dieu nous comble. Sachons nous réjouir de nos identités différentes sans les idolâtrer. C'est à cet équilibre, qui est sans doute un petit peu ténu, que Nicolas de Flux nous invite. Que l'on soit fribourgeois ou bernois, valaisan ou jurassien, je crois que cet appel est bien pour tous, et il peut même être entendu et prêché par un Français. Alors c'est bien la preuve que Dieu est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer.